Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission Instant Japon, une émission préparée et présentée par Dominique Buisson. Bonjour Dominique Buisson.
Bonjour.
Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est Sakurae, parce que les Amis des Jumelages de Chartres organisent une année japonaise, dont nous reparlerons d'ailleurs dans Nouvelles d'ici et d'ailleurs sur Radio Grand Ciel. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Mais il se trouve que Sakurae, la ville jumelle de Chartres, fête ses 60 ans en tant que municipalité. C'est-à-dire que le site de cette très ancienne bourgade s'est vu adjoindre un certain nombre de villages qui l'entouraient pour en faire un ensemble administratif moderne, comme on trouve un peu partout maintenant. 60 ans au Japon, c'est une date très très importante. Les personnes ayant atteint cet âge-là recommencent un nouveau cycle de vie. Cette fête, qu'on appelle le Kanreki, ce qui veut dire le retour de calendrier, est donc une renaissance. Cela vient de la numérologie chinoise qui combine les 12 signes du zodiaque avec les 5 éléments. Donc la fin du cycle de ces combinaisons est 60. Et ça marche aussi pour les municipalités, bien entendu.
D'accord. Présentez-nous cette ville de Sakurae. Où se trouve-t-elle d'abord ?
Oh, à peu près à 10 000 km d'ici. Donc si vous prenez le Japon central comme point de départ, Kyoto. On descend au sud. On entre dans la péninsule de Kii, c'est un lieu montagneux qui abrite un très grand nombre de lieux sacrés, de chemins de pèlerinage, d'ailleurs tous enregistrés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette péninsule est ouverte autant sur le Pacifique que sur la mer intérieure, d'où une très très grande importance stratégique dans le passé. Au centre de cette péninsule se trouve la préfecture de Nara, dont le nom vient de la première capitale fixe du Japon en 710. Au sud de la pleine de Nara se trouve Sakurae, une ville-étape importante entre Osaka et le grand sanctuaire d'Issei. On y trouve de nombreux sites historiques de première importance. Il faut dire qu'on est au cœur du premier royaume japonais, le Yamato.
Et combien y a-t-il d'habitants à Sakurae ? D'ailleurs, que signifie le mot Sakurae ?
Alors aujourd'hui, la ville compte environ 60 000 habitants, donc elle est un peu plus grande que Chartres, puisque Chartres, en gros, en fait 40 000. Plus petite si on considère l'agglomération chartraine, qui fait 125 000. Donc, le nom de Sakurae tire son origine d'un puits mentionné dans un ouvrage du 8e siècle, le Nihon Choki. Sous le règne de l'empereur Richu, un empereur du 5e siècle, un de ses sujets, nommé Kashiwade Areshi, lui offrit une coupe de saké alors que l'empereur participait à une fête galante en compagnie de l'impératrice sur un bateau naviguant sur l'étang. À ce moment, des pétales de cerisier seraient tombés par hasard dans la coupe impériale. Celui-ci, l'empereur, donc pas la coupe évidemment, ayant trouvé le fait surprenant, demanda où les fleurs s'étaient épanouies. C'était sur une colline proche. L'empereur, très intéressé par la rareté de l'événement, fit nommer le palais Wakazakura no Miya dans l'idée d'associer le jeune cerisier Wakazakura, au palais Miya. Il fit transplanter le cerisier aux abords de la fontaine d'eau pure de Tomisato. Sakurae signifie donc « puits du cerisier ».
Et on sait comme on aime les cerisiers au Japon.
Absolument.
Depuis quand sommes-nous jumelés avec Sakurae ?
Ben en fait, il y a eu un pacte d'amitié qui a été signé le 22 avril 1989. À l'origine, c'était une rencontre amicale, peut-être avec un arrière-plan un peu économique aussi d'ailleurs, entre les Lions Club des deux villes. Un pacte d'amitié a ensuite très vite été signé, puis ce sont les Chartrains, via l'Association des Amis des Jumelages, qui ont fait vivre cette relation franco-japonaise, malgré la distance évidemment. De vraies amitiés se sont soudées de part et d'autre.
Mais quand même, pourquoi le choix de Sakurae ? Qu'est-ce qui fait sa spécialité ?
Ben c'est avant tout une ville religieuse, donc comme Chartres, et dont le passé est aussi glorieux, d'ailleurs, que celui de Chartres. On considère même que le grand sanctuaire de la ville, qu'on appelle le sanctuaire Omiwa, est le plus ancien du Japon. En tout cas, il est le représentant parfait de la forme la plus ancienne du shintoïsme, cette religion native du Japon. D'autres sites archéologiques attestent de la vitalité de la ville depuis au moins le 2e siècle. Même si, évidemment, comme toujours, la mythologie met la ville en scène bien avant cette date. Plus récemment, si je puis dire, au IIIe siècle, c'est Sakurai que s'établit le premier royaume japonais du Yamato, dirigé par une reine chamane qui s'appelait Himiko. Puis, au VIe siècle, c'est encore Sakurai qui accueille le bouddhisme. Donc, vous voyez, c'est vraiment un lieu de très grande importance religieuse.
Je vois.
Mais néanmoins, le site le plus important de Sakurai reste ce grand sanctuaire Omiwa. Sa principale caractéristique est de n'avoir que deux bâtiments au lieu des trois bâtiments habituels. Bon, je vous explique. Un sanctuaire Shinto comporte en général trois bâtiments alignés, à savoir un oratoire, une salle de fronde et un saint des saints, qu'on appelle le Honden. À Sakurai, le troisième bâtiment, donc le saint des saints, est remplacé par la montagne elle-même, le mont Miwa, qui est considéré comme le corps même du Kami. Kami, ça veut dire divinité Shinto.
Et quel est ce dieu ?
Alors ce dieu, pour vous répondre, c'est un peu compliqué, dans la mesure où c'est un dieu qui a plusieurs noms. Selon les sources, les premières bibles, entre guillemets, japonaises, il y en a au moins 13, dont celui de grand possesseur de noms, comme quoi les Japonais ont de l'humour. On le connaît surtout sous son nom principal, qui est Okuninushi, qui veut dire le maître de la grande terre, autrement dit, le premier Japon. Il est le descendant de Susanoo, le frère de la déesse du soleil. Il est impliqué dans la création de l'archipel, et il est le premier à l'avoir pacifié. À ce titre, il est le protecteur de l'agriculture, de l'industrie, du commerce. Il est aussi, et pour d'autres raisons dues à une jeunesse un peu tourmentée, un des dieux de la médecine, du mariage et du saké.
De nombreuses responsabilités, alors.
De très nombreuses responsabilités. À Sakurai, on le vénère sous deux noms. Son nom d'enfance, Onamuchi, qui veut dire grand possesseur de noms, et celui de Omononushi, le grand possesseur de l'esprit. Plus particulièrement, on vénère deux de ses quatre âmes.
Quelles âmes ?
Eh oui, il y en a quatre. Quatre âmes. Les grandes divinités Shinto ont quatre âmes, quatre esprits appelés Mitama. Chacun étant honoré séparément dans un sanctuaire propre, d'ailleurs. Il y a le Kushi Mitama. Ça, c'est la face cachée de la divinité, c'est sa sagesse. Le Saki Mitama. Ça, c'est la partie créative et heureuse. Le Nigi Mitama, c'est sa nature pacifique et essentielle. Et le Hara Mitama, son esprit actif, voire destructeur. Sous la forme de son âme de sagesse, le dieu est également le dieu du saké, une spécialité de Sakurai. Donc vous voyez que la sagesse est liée à la consommation du saké.
Oui, il y a une même racine d'ailleurs.
Hein. Oui, voilà. Mais bon, saké, comme on dit chez nous, à consommer quand même avec modération. Sous sa forme pacifique, il est honoré au sanctuaire Omiwa lui-même, qui est le sanctuaire de Sakurai. En passant, ce sanctuaire Miwa s'appelle Miwa, justement, à la suite d'une aventure amoureuse entre le dieu Omononushi et une jolie princesse de la région.
Oh, racontez-nous cela.
Bien, le Kojiki, qui est la première des Bibles japonaises, raconte que Yamato Totoi Momoso Hime, ou on l'appelle de manière plus simple, Ikutama Yori Hime, était tombée enceinte à la suite de nombreuses visites nocturnes d'un beau jeune homme. Ses parents, décidés à savoir qui était ce visiteur furtif, demandèrent à leur fille de répandre de la terre rouge sur le sol et d'accrocher un fil de chanvre à son vêtement, s'il revenait. Le lendemain, on retrouva le fil qui passait par la serrure et laissait trois boucles. En japonais, trois boucles, ça se dit miwa. Et des traces bizarres menaient à la montagne. On suivit ces traces jusqu'au nid d'un serpent blanc. On pensa donc que c'était un dieu de la montagne, qu'on baptisa alors Miwa. Il faut rappeler ici que les dieux serpentiformes au Japon sont toujours des dieux liés à l'agriculture, puisqu'ils sont associés à la pluie. Il y a d'ailleurs une pièce de théâtre célèbre qui s'appelle le No de Miwa, qui relate cette histoire. Mais d'autres légendes disent qu'une nuit, la jeune fille exigea de voir son amant. Celui-ci accepta de se montrer au petit matin sous sa forme de serpent blanc. Effrayée par cette découverte, la jeune fille se serait tuée en plantant des baguettes dans son vagin, ce qui expliquerait pourquoi un des grands tertres funéraires de la région, qui est situé justement au pied du mont Miwa, est appelé tertre des baguettes, le Hashi Haka. Un ancien texte raconte qu'on tenta autrefois de lui élever un sanctuaire à la jeune fille en question, mais que des milliers d'oiseaux vinrent détruire la charpente à peine dressée. On considéra donc que c'était une volonté du dieu.
Ça finit tristement.
Oui, si on prend cette version-là. Mais si on prend la première, c'est quand même un petit peu mieux, d'autant que dans cette version, la princesse et le dieu ont un descendant. Il s'appelle Otata Neko. Il entre en scène quand, sous le règne de l'empereur Sujin, qui régnait de moins 148 à moins 29, qui a donc vécu en passant 119 ans, il y eut deux épidémies de peste et une révolte. Le dieu Omononushi lui-même affirma en être responsable car on ne lui rendait plus suffisamment hommage. Il demandait à ce que son fils, d'autres textes disent arrière-petit-fils, bon, peu importe, Otata Neko donc, soit préposé à cette fonction et promettait que, ce vœu étant satisfait, il ferait cesser ses malheurs. L'empereur le fit chercher et le nomma grand-père du sanctuaire Omiwa. Ce Otata Neko a une descendante qui travaille à la mairie de Sakurai, paraît-il. Mais elle reste moins importante que le maire, quand même.
Quand même. Avez parlé tout à l'heure d'une reine chamane.
Oui, ça c'est Himiko. Alors c'est une reine particulière qui était maître du Kido. Le Kido, c'est l'art de subjuguer les esprits démoniaques, grâce à ses pouvoirs surnaturels. Elle vivait recluse, entourée exclusivement de femmes, et c'est son jeune frère qui l'aidait dans les affaires politiques parce qu'elle n'apparaissait jamais en public.
Dominique Buisson, comment sait-on cela ?
Bon, on le sait par les Chinois. Himiko est principalement connue par un texte chinois de 8 pages qui est issu du livre dédié au royaume des Wei dans les chroniques des trois royaumes. Selon ce texte, Himiko aurait envoyé plusieurs messagers à Liuyang, la capitale des Wei, en 239, 242 et 246, si vous voulez la précision. Les Wei auraient envoyé un groupe de messagers au Japon en 240. Selon le Nihon Shoki, cette Himiko aurait pu être l'impératrice Jingu Kogo, la mère de l'empereur Ōjin, mais les historiens n'adhèrent pas totalement à cette thèse. Selon d'autres personnes, elle serait même la déesse Amaterasu, la déesse du soleil, puisque Himiko, en traduction directe, ça veut dire aussi « fille du soleil ». Il y a d'ailleurs un roman japonais, tout à fait récemment traduit en français, qui est publié par les éditions toulousaines Anarkashis, qui s'intitule « Soleil » et qui est centré justement autour de ce personnage d'Himiko.
Une reine du IIIe siècle. Sakurai a donc un passé historique très ancien.
Oui, très très ancien. Tout commence en fait à la période qu'on appelle Yayoi, qui va de moins 300 à plus 300. À cette époque-là, des cavaliers archers arrivent du continent chinois en passant par la Corée. Ils introduisent d'ailleurs en passant le bronze, le fer, la sériciculture et la riziculture, plus le tour de Potier. Ils débarquent naturellement dans le nord de Kyushu et suivent les rivages de la mer intérieure jusqu'à la plaine de Nara. C'est là, à Sakurai, sur le site de Makimuku, que la reine Himiko installe la première capitale du Yamato, l'ancien nom du Japon. Il faut dire que le site n'est officiellement approuvé par les chercheurs du Musée national d'histoire japonaise que depuis le 31 mai 2009. La datation au carbone 14 leur donnant potentiellement raison. Cette reine est officieusement enterrée dans le grand tumulus des baguettes dont j'ai parlé tout à l'heure, le tumulus Ashiaka. Mais comme la maison impériale refuse toute excavation, on ne peut avoir la certitude que la tombe est bien celle d'Himiko. D'autant qu'un autre site japonais revendique l'installation de cette première capitale. Il s'agit de Yoshinogari, qui se situe dans le nord de Kyushu, qui aurait été dirigée par une certaine Himika. Donc Himika contre Himiko, pour l'instant c'est Himiko qui a gagné. Et donc on considère que le premier royaume japonais est à Sakurai. Comme Autricum avec les Romains, le royaume de Yamato a donc subi l'influence d'une culture beaucoup plus sophistiquée que lui, car les cavaliers archers, qui ont su trouver le fer, qui gisait dans les trois petites montagnes de Sakurai, qu'on appelle les Sanzan, n'ont non seulement exploité, mais ils y ont également installé une divinité chinoise du minerai de fer, qui s'appelle Yozu, et qui est hébergée dans le sanctuaire Yozu Jinja, qui héberge son esprit et se trouve à proximité de la première arène de sumo. Vous connaissez le sumo, Bernadette ?
Oui, mais oui. Cette lutte entre deux énormes lutteurs, c'est ça ? Que oui, vient-il faire ici ?
Remontons encore une fois dans le temps mythologique. Je vous ai parlé du dieu Okuninushi, qui avait pacifié le Japon et toute la région d'Izumo, donnant sur la mer du Japon. Ce dieu descend donc directement de Susanoo, le frère très turbulent de la déesse du soleil. Bien qu'il ait rempli parfaitement sa mission de pacificateur, la déesse du soleil a néanmoins voulu le remplacer par un de ses propres descendants, qui s'appellera Ninigi. Donc, problème entre le frère et la sœur, dans les cieux. Problème qui se voit réglé au niveau des dieux terrestres, sous la forme d'un combat entre le fils de Okuninushi et le champion de la déesse. Eh bien, le sumo était né. De ce premier combat, le vainqueur sera le clan de la déesse. Donc, naturellement, c'est officieusement, grâce à ça, que le clan de la déesse pourra installer son pouvoir dans la plaine du Yamato, alors que la région d'Izumo, donc le fief de son frère, sera reléguée à un statut inférieur dans toute l'histoire du Japon.
Mais si j'ai bien compris, ça ne se passe pas à Sakurai.
Ça se passe donc dans la région d'Izumo, face à la Chine. On est dans ce qu'on appelle le Japon de l'envers. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Ah.
Eh oui. Parce que le combat suivant, qui lui va se dérouler, va opposer des lutteurs bien terrestres. Ce ne sont plus des dieux, ce sont des hommes. Eh bien, ce premier combat a lieu à Sakurai, en 23 de notre ère, mais avec les champions des mêmes régions, Yamato contre Izumo. Et ça va se passer dans un lieu, une arène particulière, qui est à l'époque constituée de quatre arbres orientés selon les points cardinaux.
Donc ils jouent aux quatre coins, en quelque sorte.
Ils jouaient aux quatre coins, voilà. Cette fois, c'est Izumo qui va gagner, d'ailleurs. Et le vainqueur, qu'on appelle Nomino Sukune, a été déifié comme un dieu du sumo. Et d'ailleurs, sur ce site, on trouve un petit sanctuaire ruche qu'on appelle un okora, qui est censé abriter son esprit. Et depuis, la reine de sumo, normale, classique, cette forme particulière qui est composée d'un carré surélevé avec un cercle délimité par une corde, ça figure exactement ce qui s'est passé entre les quatre arbres.
La déesse du soleil a donc gagné le droit de diriger le Japon. Je sais qu'elle est l'ancêtre des empereurs japonais. Est-elle venue à Sakurai ?
Ben oui et non. En fait, c'est son premier descendant terrestre, Jimmu, qui s'y arrêta pour forger les armes en fer, puisqu'il y avait beaucoup de fer à Sakurai, qui lui permettront de gagner sur les tribus hostiles de la région et finalement de délimiter les premières frontières du Yamato. En second lieu, c'est sous la forme de miroir que la déesse du soleil a séjourné dans un palais de Sakurai en moins 92. Mais l'empereur, effrayé par une telle puissance solaire, la chassa de son palais, et chassé entre guillemets, pour l'orienter vers le sanctuaire d'Issé, où le miroir réside depuis. Bon, le grand sanctuaire d'Issé, c'est le grand sanctuaire de la déesse du soleil. C'est là où l'empereur, chaque année, vient rendre hommage à son ancêtre. C'est le sanctuaire Shinto le plus important de tout le Japon. Sur la route vers Issé, justement, ce sanctuaire, le substitut de la déesse, donc son miroir, fut hébergé un temps au sanctuaire Hibara Jinja de Sakurai. Donc Sakurai est encore dans le coup.
Et le bouddhisme alors ?
Alors le bouddhisme aussi est dans le coup à Sakurai, bon. et pas qu'un peu, dans la mesure où le bouddhisme débarque pour la première fois au Japon en 552, et il le fait où ? À Sakurai. C'est une ambassade coréenne qui vient présenter cette nouvelle religion aux descendants de la déesse du soleil. Le bouddhisme arrive au port de Kanaya, qui est sur la rivière Yamato-gawa qui traverse Sakurai. D'ailleurs, il y a une stèle qui est plantée ici pour marquer cette transmission du bouddhisme. Avec le bouddhisme arrive tout ce qui va permettre au Japon de développer une culture importante, continentale et d'une manière radicale et très très rapide. Citons l'écriture chinoise, l'art de gouverner, l'architecture monumentale et la statuaire, entre autres. D'ailleurs, puisqu'on parle de statue, l'ambassade apportait une statue de Bouddha. Cette statue de Bouddha, l'empereur ne sait pas trop quoi en faire. C'est un concurrent direct, hein, donc ce n'est pas, pas trop bien. Donc il va la confier à l'essai à un noble de sa cour, un noble de la famille des Soga. Dans un premier temps, donc, la statue sera installée dans le palais d'un Soga, puis en 588, dans le premier temple bouddhique du Japon, qui s'appelle à l'époque le Hokoji, et qu'on appelle aujourd'hui Asukadera, le temple d'Asuka, car il se situe dans le village d'Asuka, qui fait partie de Sakurai, et qui sera épisodiquement capitale du Yamato, donc, de 552 à 710.
Mais cette pénétration du bouddhisme n'a-t-elle pas créé de problème ?
Oh, bien sûr que si. Il y a eu même de très sérieuses batailles, puisque les partisans de l'empereur, considérant que l'empereur était un dieu incarné sur terre, ne voyaient pas pourquoi on accepterait une autre divinité. Mais, comme le bouddhisme apportait de tels éléments culturels de première importance que l'empereur lui-même était bien tenté de les utiliser. Donc, il y a eu des partisans pour et contre. Donc, de grosses batailles. Et finalement, c'est le clan pro-bouddhisme qui va gagner. Et ça, ça se passe sous la régence du prince Shotoku Taishi, qui a régné donc de 593 à 621. Dont le mentor, Soga no Umako, donc un noble, est enterré dans la plus grosse structure mégalithique du Japon, qui se trouve également à Sakurai, qu'on appelle Ishibutai. Donc évidemment, à la suite de l'exemple de ce noble, hein, Soga no Umako, d'autres temples seront construits, de nouvelles statues importées ou sculptées par des Coréens installés au Japon, comme le grand Bouddha du Asukadera, qui date de 609, qui mesure 2,75 m de haut et qui est la plus vieille statue bouddhique connue au Japon.
Tout ça fait beaucoup de choses. Si nous allons un jour à Sakurai, Dominique Buisson, quel temple bouddhique nous conseillez-vous de visiter ?
Alors, il y en a beaucoup, mais si on veut rester dans la statuaire, sans conteste, c'est le Shorinji. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il appartient à la secte ésotérique Shingon, qui considère que les divinités Shinto sont des avatars de dieux bouddhiques. Donc ils sont plutôt dans la coexistence, c'est assez sympa. En plus, il est situé exactement en face du mont Miwa, qui est donc shintoïste. Et donc ça a établi une relation relativement sympathique dans la région. Mais la seconde, c'est qu'il abrite trois statues extrêmement célèbres. La plus belle et la Kannon à 11 têtes, la déesse Kannon à 11 têtes, qui date de la seconde moitié du 8e siècle et qui est d'ailleurs classée trésor national. Elle est en lac sèche et feuilles d'or. Elle mesure 1,21 m, c'est tout petit, mais quand vous la regardez, elle paraît gigantesque. Elle a une puissance d'évocation, de retenue, elle est complètement étonnante. Pour moi, c'est vraiment une des trois plus belles statues du Japon. La seconde est la plus grande statue en pierre du Yamato, donc de cette région, et qui représente le Bodhisattva Jizo dans son rôle de protecteur des femmes enceintes. Donc, il est particulièrement vénéré et donc il attire beaucoup de monde, évidemment, dans ce temple. La statue est relativement récente puisqu'elle date de l'époque Edo, mais c'est la principale divinité de ce temple. La troisième, c'est une statue de Nyorai Kojin, une divinité du feu du foyer, qui a la particularité d'avoir six mains, qui font des mudras, donc des gestes sacrés, pour lutter contre les désastres et apporter la bonne fortune. Toujours pour la statuaire, il faut aller aussi au temple Abe Monjuin pour voir la magnifique statue du Bodhisattva Manjusri, qui fait 7 mètres de haut, qui représente donc cette divinité chevauchant un lion. Et l'ensemble est sculpté par Kakei, un des plus grands sculpteurs de l'époque Kamakura. Elle est particulièrement vénérée par les étudiants car elle est la divinité de la sagesse et de l'accomplissement des études. À ce propos, d'ailleurs, même les mêmes étudiants qui honorent cette divinité-là vont, toujours à Sakurai, solliciter l'aide d'un petit dieu particulier qui réside dans un tout petit sanctuaire qu'on appelle le Kuebiku Jinja. Ce dieu, ce petit dieu, qui est particulièrement vénéré aussi, eh bien, c'est le dieu épouvantail. Parce que, pourquoi il est le dieu de la sagesse? C'est tout simplement parce que, planté dans sa rizière, il voit tout, il entend tout, mais il ne dit jamais rien. Il est donc considéré comme un dieu de la sagesse.
Ça, ce n'est pas banal.
Ce n'est pas banal du tout. Enfin, pour rester encore dans la statuaire, pour sa statue de Kannon, mais surtout pour son site et son architecture, le Hasedera est incontournable. C'est le temple de la région, d'ailleurs le plus connu des touristes, car il a été construit à flanc de colline, dans un style qu'on appelle le style Butaizukuri, ce qui signifie en estrade. Il a été construit sous cette forme-là au XVIIe siècle, au milieu du XVIIe. Il a la particularité d'être à flanc de colline, donc très très végétalisé, et il y a un très long corridor couvert qui monte jusqu'au temple. Ce corridor mesure 218 mètres de long. En passant, ça fait 399 marches.
Wow.
Alors, il faut du temps. Et on considère qu'il faut ce temps, justement, pour abandonner les 108 illusions de ce monde. Donc, théoriquement, quand on arrive en haut, on a les mollets bien faits et on a normalement l'esprit suffisamment vide de toute illusion pour aborder la divinité. Mais le plus extraordinaire, c'est quand on visite ce temple, le Hasedera, donc, au printemps. Parce que ce couloir est bordé par 7000 pivoines arbustives en fleurs. C'est absolument magnifique. La statue elle-même, la statue de Kannon, n'est pas moins extraordinaire. Elle passe même pour avoir été sculptée en 3 jours par les divinités elles-mêmes, en 721. Et ça, c'était dans un énorme camphrier sacré qui a été fendu. Donc, on a sculpté 2 statues de Kannon. Une qu'on a installée ici et l'autre qu'on a mis à l'eau de la mer et qui a été emportée jusqu'à Tokyo, à la région de Tokyo, à Kamakura, où on l'a récupérée et où on a construit un autre temple appelé également Hasedera. Donc ça, c'est intéressant dans la mesure où il y a un jeu comme ça lié à la statue. C'est, de toute façon, celle qui est ici, c'est la plus grande statue en bois du Japon. Hein, elle est assez étonnante, bien qu'elle ait brûlé plusieurs fois et que l'actuelle ait été recouverte de feuilles d'or en 1343. Mais elle est très belle, hein, cette statue. Mais le plus beau, peut-être encore, et surtout dans la région de Sakurai, je pense que c'est le site. Et quand on est sur sa terrasse, sur cette scène, justement, qui domine toute la nature, c'est absolument magnifique.
Alors effectivement, ça donne envie d'y aller. Sur les guides touristiques, on voit toujours une très jolie pagode à plusieurs étages. Où se trouve-t-elle? Et ce sera, ma foi, la fin de notre mission.
C'est la seule pagode en bois à 13 étages existant au Japon. Elle se trouve au sanctuaire Tanzanjinja. C'est un des plus célèbres de Sakurai. Celle qu'on voit date du XVIe siècle, mais elle est beaucoup plus ancienne. Ses très nombreuses toitures sont toutes recouvertes d'écorces de cyprès, ce qui s'harmonise d'ailleurs parfaitement avec le rouge des bois du sanctuaire, qui est entièrement peint en rouge et blanc, et c'est particulièrement magnifique, évidemment, en automne. C'est un très grand temple qui a été considéré comme peut-être un des tout premiers temples du Japon et qui a été transformé en sanctuaire Shinto beaucoup plus tard pour des raisons politiques.
Merci Dominique Buisson et à très bientôt pour une nouvelle émission Instant Japon.